Vous êtes la troupe donc de la Botte d'Or,
c'est ça?
La compagnie de la Botte d'Or. Et vous nous avez interprété Don Juan ce soir, le procès de Don Juan.
Ou un cœur à aimer toute la terre.
Merci de cette correction. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler déjà de quoi ça parle, la pièce?
De quoi ça parle?
Ouais.
on fait le procès de Don Juan. Au départ, on s'inspirait d'une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelait La Nuit de Valognes, parce que justement dans cette pièce il y a un procès de Don Juan. Et sauf qu'on a juste repris les personnages et une partie du premier acte, et après on a tout réécrit parce que ce procès ne nous convenait pas du tout pour plein de raisons. Et la première, c'est que les femmes n'arrivent pas à nommer les véritables chefs d'accusation qui pèsent sur Don Juan. Elles s'arrêtent sur leur chagrin d'amour et sur l'infidélité, alors qu'en fait ça dépasse largement ça. Et surtout, Don Juan est acquitté à la fin, donc il n'est pas condamné, il part même dans une lumière blanche divine, voilà, et il est pardonné. Et ses actes sont expliqués sous prétexte qu'il serait homosexuel, et donc, par nature, il ne pourrait aimer les femmes, et c'est pour ça qu'il serait allé de conquête en conquête, voilà.
Bref. Du coup, c'est une pièce qui est sexiste et homophobe,
voilà. À chaque fois. C'est ça, mais c'est vrai.
Et du coup, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était, en fait, c'est ce qu'on dit à la fin de la pièce, d'ailleurs, c'est... représenter ce que signifie Don Juan pour nous, de notre point de vue...
Quelle violence,
quels
imaginaires il reproduit et réaffirme.
Voilà, exactement. Du coup, voilà, pour nous, en fait, c'est juste un changement de point de vue sur le mythe de Don Juan.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Au revoir. Oui. Vu que nous sommes à la fin d'un spectacle, voilà, il y a des spectateurs qui nous saluent.
Qui ont beaucoup aimé la pièce.
c'est une façon, du coup, de montrer à quel point Don Juan n'est pas... C'est pas un mythe de la laïcité, c'est systémique, enfin, c'est un truc qui est plus grand et qui le dépasse. Et c'est pour ça qu'il y a un changement de paradigme au moment où on juge plus l'homme, mais ce mythe-là qui représente du coup le monstre à plusieurs têtes.
Le patriarcat.
Parce qu'en fait, quand les femmes s'arrêtent à leur chagrin d'amour, elles n'arrivent pas à dire qu'elles ont vraiment été victimes de violences psychologiques, sexuelles, même d'agressions et de viols. Et alors que dans tous les mythes de Don Juan, il y a ça, et elles n'arrivent pas à le nommer, et même dans les écoles et les universités, quand on l'étudie, et ça a été notre cas, on ne parle jamais de ça. On parle, comme tu l'as dit Camille, de la libre pensée, de la laïcité, du fait que Don Juan est un libertin qui remet en cause les dogmes religieux du mariage, donc c'est même une figure très très positive. Et jamais on ne dit ce qu'il fait aux femmes, en fait. Et ce qu'il fait aux femmes, c'est pas juste qu'il les trahit et qu'il leur fait un chagrin d'amour, c'est qu'il les violente. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il est issu d'un système social et politique qui le conditionne aussi à faire ça. C'est ça qu'on veut dire.
Après, cette approche de Don Juan, elle concerne pas seulement Don Juan, en fait. Nous, on a choisi de travailler sur Don Juan, mais en fait, on aurait pu travailler sur les liaisons dangereuses. On aurait pu travailler sur Belle du Seigneur. Je sais pas, on aurait pu travailler sur beaucoup d'œuvres, en fait, littéraires qui stigmatise les femmes.
On aurait pu parler de la culture populaire aussi.
Et qui représente Don Juan comme... Enfin, qui représente l'homme séducteur, sans...
Qui va conquérir les femmes.
Sans interroger ce qu'il a d'oppressif, en fait. En quoi il représente un imaginaire sexiste qui se reproduit de siècle en siècle.
Et c'est sous différentes formes, quoi. C'est ce qu'on essaye de montrer dans le spectacle, c'est que nos productions culturelles, de manière générale, nous pétrissent de ça. De cet imaginaire de l'homme conquérant qui va cueillir les femmes, et les femmes sont là pour être cueillies, et elles existent qu'à travers ce désir et le fait d'être cueillies, en fait. C'est la seule chose qui est souhaitable pour les femmes, en fait, qui va les sauver, qui va les permettre d'exister, voilà, c'est ce désir-là, ce désir masculin.
Qui ne leur appartient pas.
Voilà. Et donc, ce qui est l'enjeu du spectacle, c'est aussi cette reconquête du désir. Qu'enfin elle puisse être sujet désirant et plus seulement objet du désir.
C'est ça, en fait c'est une écriture collective dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est collective parce que vous l'avez écrite à plusieurs, parce qu'elle porte aussi une parole collective qui n'est pas donnée forcément, on donne la parole aux femmes, on donne aussi la parole à Don Juan pour qu'il puisse s'exprimer, mais la parole des femmes est celle qui est dominante, pour une fois. Elle est collective aussi parce que c'est plusieurs textes qui sont introduits dedans, parce qu'il n'y a pas forcément que Emmanuel Schmitt dedans, pas que La Nuit de Valognes, il y a... il y en a d'autres, il y a Anne Ernaux, il y a Don Juan, voilà, il y a Molière quand même.
Pour faire exister le mythe, on a mis Molière, oui, quand même, pour qu'on reconnaisse.
Non, après, on se doit de citer les féministes, les écrits féministes qui nous ont inspirés et qu'on a cités dans la pièce. Bah, y a Audrey Lorde, Le visage de la colère, Rebecca Solnit, Ces hommes qui m'expliquent la vie, Annie Ernaux, Mémoire de fille. Donc en fait, et même s'il y a des œuvres qui ne sont pas citées textuellement, en fait, on a été nourris de lectures féministes.
Comme en finir avec la culture du viol.
Oui, de Noémie Renard.
Voilà.
Enfin, du coup, voilà, c'est une réécriture qui se nourrit, en fait, de...
Et puis de nos imaginaires à nous aussi, puisqu'on a aussi écrit un peu...
Et du coup, j'aurais une question par rapport à ça, parce que dans cette pièce, vous dites des vérités, des choses qui ne sont pas dites, qui même ne sont même pas censées exister pour nous en tant que femmes. Et dans le public, ça touche, il y a des vérités qui sortent, qui... qu'est-ce que ça peut vous faire en tant que personne de voir ces femmes qui se mettent à pleurer ou qui voient que ça exhorte des choses chez elles? J'imagine que c'est le but déjà de cette pièce.
C'est délicat. Enfin, pour nous, c'est très fort. Il y a aussi, ça nous touche que ça puisse parler autant, que ça puisse débloquer des choses. C'est génial. Tant mieux si ça peut avoir cet impact-là. Après, notre but, c'est pas non plus que tout le monde sorte en pleurant et que voilà, il y a aussi un truc.
C'est pas le cas.
Voilà, non, c'est pas le cas non plus, heureusement aussi, mais voilà, qu'il y a un truc en tout cas d'empouvoirant, de joyeux, où on a des personnes, hommes et femmes en fait, qui ressortent et qui ont avancé aussi sur des choses, mais des petits pas minimes en tout cas. Bah nous, ça, enfin moi en tout cas, ça me fait vraiment, c'est la plus belle chose en fait que je peux apporter.
Ça vous fait quoi du coup, vous, de jouer, de vous mettre en scène et de montrer à la fois la force et la faiblesse d'un coup?
En fait...
De l'être aussi, ouais. De manière générale, pas que de la femme.
À l'écriture, pardon. Mm-hmm. À l'écriture, parfois, il y avait des moments un peu délicats, un peu difficiles, parce qu'on a écrit avec des choses qu'on a vécues aussi. Puis c'était des moments où on parlait beaucoup et c'était hyper enrichissant pour nous. Mais évidemment, parfois, c'est douloureux de remettre en question certaines choses ou de reparler certaines choses aussi. Et même en répétition, le premier acte est quand même encore assez sexiste pour les femmes. Et du coup, il fallait aussi savoir vivre ça. Bon, maintenant, le temps a passé et ça va. Mais voilà, pour moi, en tout cas, c'est ça.
En fait, pour nous, c'était aussi exorcisant.
Oui, aussi.
Non, mais je l'ai changé de place. C'était exorcisant de se servir de nos vécus, de les mettre dans cette pièce et du coup de les mettre à distance. Du coup, quand tu parles de faiblesse et de force, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est qu'en fait, on fait de choses réelles et d'expériences vécues une force dans la mesure où on l'écrit et on le met en mots et on le met en scène. Et en fait, ça a fait un basculement en fait, pour nous aussi en tant qu'actrices. Je crois que ça fait ce basculement d'une expérience vécue, pas nommée ou mal nommée, à une expérience qui est nommée et qui finit par être dénoncée, en fait. Et du coup, oui, voilà, en termes d'expérience d'écriture, moi, j'ai ressenti ça aussi, en fait. C'était qu'effectivement, on parle de choses vraiment parfois intimes, quoi, et parfois douloureuses, mais que...
Bah oui, parce que moi j'ai parlé surtout du côté un peu douloureux, mais évidemment toute la deuxième partie où il y a plus d'empouvoirment, comme on dit, là c'est hyper important. Et c'est une manière de reforger notre imaginaire aussi, parce que comme on l'a dit, notre imaginaire est tellement pétri de trucs sexistes qu'enfin d'avoir de nouveaux discours et d'avoir des textes qu'on apprend par cœur et qui sont émancipateurs pour les femmes, ça fait un bien fou. Et en plus ça prend du temps, parce que même si pourtant on a coécrit le texte et qu'on le connaît très bien, moi je l'entends à chaque fois, chaque soir, et chaque soir ça va mieux finalement, si je peux dire ça. En tout cas, chaque soir je m'en apprenne encore plus et ça me porte encore plus dans la vie, quoi. Et du coup ça montre à quel point ça serait important qu'il y ait plus cette parole-là dans les théâtres, dans les films, dans les livres, quoi. On est plus ces modèles-là, je pense.
Oui. Moi, par exemple, qui porte Angélique, tous les soirs, j'ai une pression parce qu'Angélique, elle est à la fois très très drôle, mais elle est super puissante, quoi. Et tu peux pas la louper, tu peux pas, parce que si tu la loupes, moi, une fois, j'ai joué, j'étais pas dedans, c'était, c'est horrible.
Parce qu'elle arrive au milieu en plus de la pièce.
Ouais, et puis elle porte des choses tellement, tellement franches, tellement directes aussi.
C'est la dénonciation directe en fait à Don Juan.
Ouais, et puis aussi, elle est dans la force quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'elle a en elle qu'elle a réussi à dépasser. Et ce qui fait qu'elle arrive maintenant à nommer les choses, à parler de son désir, à parler de ce qu'elle est maintenant, du fait qu'elle est seule et que ce n'est pas grave en fait. Parce que c'est ça, elle est seule, elle est puissante, mais elle n'est pas seule en fait, c'est une bêtise de dire ça. Mais
oui,
enfin, elle est tellement puissante et en fait, ouais c'est...
Il faut savoir prendre en charge cette puissance.
Ouais, il faut savoir la prendre en charge en fait.
Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien pour nous d'avoir mis en scène une femme puissante sur scène parce que...
Des femmes.
Il y en a vraiment. Oui, tu sais. Ouais, en plus, après, des femmes. Parce qu'il y en a, on en manque vraiment terriblement. Enfin, maintenant, à chaque fois que je joue au théâtre, c'est terrible, quoi. Parce qu'en plus, on a un prisme maintenant dans le regard et on est assez sensible à ça. Et c'est vraiment terrible. Enfin, il y a vraiment. Des représentations des femmes qui sont extrêmement pauvres.
Quoi. Là, elles sont extrêmement variées. Vous les avez imaginées comment, vos personnages? Ils vous sont venus assez rapidement? Vous vous identifiez à eux ou pas du tout?
Ils sont tous différents.
Ils sont différents. Ils sont. Ouais. C'est aussi des personnages de théâtre, c'est pas forcément identification, hein, c'est juste...
En fait, à la base, c'est des personnages qui sont dans la pièce de Schmitt. Hein.
Ouais, d'accord.
Et en fait, c'est des personnages qui sont super stéréotypés quand même. Hein. On a la religieuse, on a une écrivaine coincée, on a la libertine, et en fait, c'est des gros stéréotypes, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, je crois que le but, c'était aussi de jouer avec ces stéréotypes et ces clichés et d'en faire autre chose.
C'est ça, mais on les dépasse aussi.
Ouais, oui, c'est ça.
On les fait exister et ça peut être très drôle. Enfin, c'est assez drôle. Ouais. C'est très drôle de faire exister ces stéréotypes-là. En plus, on essaie de leur donner un peu plus de profondeur, voilà. Et puis après, ce qui est vraiment super, c'est de montrer que c'est des stéréotypes et effectivement de les dépasser, comme vous dites.
Et on parlait du coup pour votre écriture et même dans votre jeu, la puissance des mots, mais il y a aussi, je trouve, la puissance des gestes que vous avez faits. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est justement quand le juge dit les victimes disent que, enfin, voilà, témoigner. Et en fait, vous n'avez rien dit, vous avez agi. Et enfin, qu'est-ce que ça représente, même si j'ai ma propre idée de la chose.
Qu'est-ce que ça représente?
Oui, le fait que vous ayez fait des gestes qui chacune avait son propre geste.
Bah là, c'est plutôt à vous, effectivement, de répondre.
Bah après, c'est ce qu'on avait dit au bord de scène aussi, sur le fait qu'en fait... Bah, je sais pas.
Les interprétations.
En fait, c'est que... Comment dire? En fait, l'idée, c'est de ne pas nommer les choses pour ne pas enfermer, en fait, dans un certain type de représentation, notamment concernant les violences, les agressions, les viols, etc., qui, comme tu l'avais dit, Chloé, voilà, ont tendance à... En termes de représentation au cinéma, on est toujours sur des choses hyper violentes, toujours teintées de... Voilà.
C'est toujours l'inconnu derrière, dans un dehors, dans la rue.
C'est ça,
on est toujours un peu les agressions. C'est beaucoup plus insidieux dans les relations de couple, dans la famille.
C'est ça.
Ça prend du temps. Au départ, c'est peut-être de l'amour et après, la violence se réinstaure petit à petit. Enfin, c'est beaucoup plus complexe.
C'est ça. Il y a un impact aussi parfois sur la longueur. C'est-à-dire qu'une fois, il y a eu une violence qui s'est produite à un moment et puis en fait, c'est un impact en fait sur votre personne. Et ça dépasse en fait juste une minute ou une heure, bref. Et donc du coup, ce qu'on a voulu dire aussi en posant pas les mots, c'est qu'on voulait laisser le champ libre en fait à tout le monde de pouvoir projeter ce qu'ils avaient envie de projeter, de sentir ce qu'ils avaient envie de sentir. Et puis moi, je me sentais pas porter une parole trop crue, trop violente sur la question du viol en fait. C'est assez, je crois qu'on en sait assez déjà et il n'y a pas besoin d'en rajouter encore une couche.
Mais c'est ce qu'on disait aussi au bord de scène, on en sait assez parce que le viol est quand même représenté, on peut trouver très facilement des représentations du viol et même, en tout cas c'est notre parti pris, même si c'est pour le dénoncer le viol, quand on le représente ça forge encore notre imaginaire, c'est toujours les mêmes représentations qu'on donne à voir. Et il y a un moment, il y en a marre aussi, quoi. Voilà, l'oppression, on peut très facilement savoir ce que c'est et on veut aussi montrer autre chose de ça.
Est-ce que c'est une question, comment dire? La pièce, elle porte sur l'innommable, sur la parole, et elle est montrée vraiment de manière différente dans la pièce. C'est-à-dire qu'à la fois, on monte par des gestes, on passe pas par la parole forcément, on passe par le détournement de clichés qui sont des paroles qui sont déjà données, qu'on a déjà entendues, elle passe par la domination d'une parole masculine qui à la fois tait les paroles féminines, et à la fois on demande sans cesse aux femmes de se justifier face à ces actes. Vous, vous l'avez ressenti en littérature, dans la société, cette oppression, je veux dire, vous, vraiment, vous la ressentez et vous voulez la montrer quand vous êtes sur scène.
C'est une question ou une affirmation?
Ouais, les deux, je sais pas, ouais.
Pour moi, c'est évident que oui.
Ouais.
Et différents degrés, hein. Toutes, on n'a pas vécu les mêmes choses, enfin voilà, hein,
mais justement, toutes, on n'a pas vécu les mêmes choses, et en même temps, c'est un continuum de la violence.
Oui, quoi. Voilà, c'est ça, exactement.
En fait, et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on montre avec tous ces différents gestes qu'on a, enfin, que les femmes ont, parce que moi, je fais pas, je suis pas dans ce moment-là, mais en fait, c'est, ça va de la caresse subreptice et non consentie à quelque chose d'extrêmement violent dans les gestes. Et en fait, c'est cette espèce d'éventail, de continuum de la violence, en fait, qu'on a voulu représenter, parce que pour nous... mais c'est ce que dit Angélique, c'est pas, je ne parle pas que de mon viol, je parle de
mon renoncement à ma dignité, à ma personne,
du vide.
En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ces questions. C'est évidemment ces questions-là, mais en fait, c'est... Oui, voilà, en fait, on a voulu vraiment montrer que c'était un continuum et que ça allait de choses extrêmement subreptices à quelque chose d'extrêmement violent et qu'en fait...
Vous avez la même racine.
Ouais, et on en parlait avec Juliette juste avant de jouer. Parce que du coup, Chloé, Lola et Andra, elles ont écrit le texte et du coup, il y avait le besoin de porter ce truc-là. Mais il y a aussi quelque chose où nous, quand on est rentré dans le projet, on n'avait pas forcément les mêmes références, pas forcément les mêmes vécus, enfin clairement pas les mêmes vécus, pas les mêmes sensibilités. Et il y a un truc où, et je pense que ça le fait à beaucoup de spectatrices et très certainement à des spectateurs, de juste se rendre compte de vécu, enfin d'un coup de prendre conscience de ah mais en fait ça je l'ai vécu, mais je l'avais pas vécu comme une violence parce qu'on me l'interdisait, enfin la société ne la nomme pas comme une violence, et juste du coup on en a pris conscience à travers le projet, enfin tu vois quand tu disais vous l'avez vécu dans la société, des oppressions et tout, et ben non en fait, enfin il y a un truc où parfois t'as besoin de le montrer parce que tu le ressens pas comme une oppression, c'est quelque chose que... Bah oui, effectivement, petit harcèlement dans la rue, non, c'est pas du harcèlement, c'est pas nommé comme ça, c'est juste, oh, c'est un peu relou, tu vois, mais... Et en fait, quand d'un coup, tu prends conscience du tableau et de ce que ça représente, c'est, ah ouais, en fait, merde, c'est chaud. Et ok, c'est de l'oppression.
Ouais, en fait, il y a deux choses. Il y a parfois, quand on a subi une violence, on n'arrivait pas à la nommer et comprendre véritablement ses implications et d'où ça venait. Et ce que tu dis, Camille, aussi, c'est parfois qu'on ne ressent pas que c'était une violence, c'est parce qu'on n'a pas conscience que ce qu'on a vécu, ça fait partie d'une espèce d'énorme spectre qui, systématiquement, dans notre système, maintient une domination. Donc voilà, c'est un peu... ça y est, je conceptualise, mais en fait,
c'est vraiment toi.
Oui, voilà.
C'est excellent.
Mais c'était hyper intéressant, en tout cas, de nous, de nous retrouver pour parler de ça et d'écrire cette pièce. Pour nous, et vu les témoignages qu'on a eus, on espère pour les autres.
Ouais. C'est que ça vous a changé d'écrire le projet.
Je crois que
En tout cas, ça fait partie d'une dynamique de changement.
Je dirais pas que la. C'est pas le déclic ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça s'inscrit dans une démarche de prise de conscience et d'empouvoirment en fait. Vraiment, c'est pour nous.
D'accord. T'as une autre question? Juste un dernier point, et peut-être que ça va être polémique, mais de revenir sur la parole de Don Juan, parce que elle est problématique aussi, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut lui donner. Est-ce qu'on veut essayer de lui donner peut-être un peu une profondeur qui est haute que celle qu'il y avait dans Molière avec l'athéisme, qui allait au-delà de la question simplement des relations. C'est ce que vous dénonciez d'ailleurs, c'est qu'il faut bien montrer qu'il y a autre chose que la portée que peut-être Molière voulait lui donner, on n'en sait rien. Qu'est-ce que représente en fait Don Juan? On avait dit que le but c'était de dépasser l'homme et d'atteindre le mythe, mais est-ce qu'il y a quand même idée de montrer l'homme quand même, malgré ça? Je ne sais pas. Ouais.
Vas-y, je laisse répondre.
Nous, Don Juan, c'est un peu le prototype, enfin un des prototypes de la masculinité, quoi.
Toxique,
mais après...
j'ai l'impression que pour nous, la Don Juan, c'est un prétexte. Voilà.
Personnellement, je ne cherche pas forcément à lui apporter une profondeur ou à chercher
qui
il est psychologiquement, pourquoi il agit comme ça. Je m'en fiche complètement. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il fait, ce qu'il a fait, comment il agit envers les femmes, etc. Et pourquoi à un moment, on veut dire stop.
Non mais oui, c'est ça. Et en fait, Don Juan, c'est aussi un prétexte à montrer l'émancipation sur scène. En fait, c'est ça. C'est
et des
que...
femmes, en fait.
Ouais, voilà. Bah, bien sûr, ouais.
Et c'est pour ça que Don Juan, bah, la profondeur psychologique, bah, non, on ne cherche pas à expliquer clairement. Pourquoi il a fait ça, pourquoi.
Parce que tellement. Enfin, beaucoup de gens ont tellement essayé.
Voilà, c'est ce qu'a voulu faire Schmitt. Ouais, Schmitt, il a voulu faire ça. Ouais, Schmitt, il a dit ah, Don Juan, il est amoureux d'un homme, c'est pour ça qu'il est violent. Bon,
il est incapable d'aimer les femmes, donc c'est pour ça qu'il exerce une violence sur elles. En fait, frustré, en fait.
Nous, on s'en fiche de pourquoi Don Juan fait ça. En fait, on sait pourquoi Don Juan fait ça, parce que la masculinité est construite de manière malsaine dans nos sociétés. Voilà, enfin, en fait, nous, ce qu'on a voulu montrer, ce qui nous importait, c'était de montrer sur scène comment des femmes prenaient conscience de cette violence qui était exercée sur elles et comment elles s'en émancipaient et comment elles devenaient puissantes. En fait,
peu importe Don Juan.
Voilà.
Oui, ah ouais, non, mais
après, on le suggère justement que Don Juan.
C'est pas un pur prototype.
Voilà. Enfin. Au contraire, enfin, je pense que justement on suggère qu'il a été lui aussi construit socialement comme les femmes.
Oui,
en fait.
Voilà, c'est ça.
La différence, c'est que lui, il est dominant, donc on va pas trop s'y attarder. Mais
ce qu'il croit, ce qu'il dit, enfin, quand il dit qu'il croit à l'amour, il pense toutes les aimer, mais en même temps, il dénonce clairement, enfin, il dit clairement qu'il est fourbe. Donc,
Ouais. Il y a un côté très manipulateur qu'on a totalement assumé dans la pièce. Hein,
Bien sûr.
Enfin, on le montre sous plein d'aspects, sous ses masques, sans ses masques.
Évidemment,
on le montre en train de mentir et en train de manipuler. Quoi.
Et c'est un prototype de la masculinité toxique, justement, parce qu'il a un peu tous les travers. Quoi. C'est quand même un peu rare de rencontrer quelqu'un qui les amalgame tous de cette façon-là. C'était justement pour montrer toutes les facettes. Et comment... Peut-être dans chacun, il y a une de ces facettes-là, peut-être, qu'on peut retrouver. Pas toutes, évidemment. Enfin, c'est très rare, je pense, quand même. Mais une de ces facettes.
En tout cas, nous, souvent, on a eu des retours de spectateurs qui nous disaient que, justement, ça les interrogeait aussi par rapport à leur construction sociale à eux.
Et ça, c'est important, voilà.
Mais encore une fois, c'est un continuum. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est pareil, en fait. Ça reste un continuum de petits comportements à ce qu'on représente, nous, sur scène, qui est effectivement...
Et interroger cette masculinité, c'est important pour que cesse l'oppression, mais c'est aussi important pour tous ceux qui ne se retrouvent pas dans cette masculinité, virilisme, machin. Ça aussi, c'est important de le dire.
Oui, on peut avoir...
D'arrêter de valoriser ça, en fait.
C'est ça, qu'on ne se retrouve pas forcément dans le personnage.
Parce qu'au contraire, c'est très violent. Donc justement, arrêtons de nous identifier à ça.
Ouais.
Oui. Un petit mot de la fin, un petit coup de prom. Vous êtes là de quand à quand?
Alors, vas-y, André.
Nous, on arrive sur la fin, là, au Nid de Poule. On joue encore dimanche. Dimanche 27 à 17h. Les réservations là, ça commence à être tendu hein, parce qu'on est presque déjà complet.
Donc réservez vite.
Voilà, très très vite. Et puis sinon, il y a une deuxième chance au Carré 30, les 7, 8, 9 et 10 novembre. Il y a 30 places aussi, donc il faut bien penser à réserver. Et puis voilà.
Il y a encore de la place, hein, allez-y.
Il y a encore de la place, mais il vaut mieux réserver quand même, ça va vite. Voilà.
Merci beaucoup, c'était super.
Merci.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.